d'une part, justement, qu'est-ce que c'est la microperformativité et qu'est-ce que c'est le Green Studies. Et pour moi, c'est un peu la face « green side of the moon », comme on dirait en anglais. Et il est vrai que depuis 90, j'ai collectionné, en même temps que je travaillais comme commissaire d'exposition, notamment sur le sujet de art et sciences, art et technosciences, art et écologie et art et nouveaux médias, dont le nouveau média sont pas forcément les outils numériques seulement, mais aussi la biotechnologie, y compris la biologie de synthèse, aujourd'hui avec CRISPR-Cas, et effectivement on voit depuis les années 90 qu'il y a pas mal d'artistes qui effectivement ont commencé à travailler avec ces techniques en tant que moyen d'expression. Et j'étais à ce titre commissaire d'exposition de la première exposition, je dirais mondiale, qui a parlé de ceci à la scène nationale de Nantes au Lyonique en 2003. Et donc c'était l'Art Biotech qui était une exposition avec 11 propositions artistiques, dont Art Orienté Objet, George Gassot, Joe Davis, Martha de Menezes, Eduardo Katz, qui venait de faire un tabac avec son fameux lapin fluorescent vert, etc. Donc c'était un peu la base de ce qui est devenu le bio-art, comme certains l'appellent, ou art biotech, effectivement. Donc pour moi, beaucoup de choses reviennent en fait à cet article écrit un peu naïvement en 90. Et donc du coup, je me suis toujours intéressé au vert. Et récemment, j'ai trouvé cette caricature de Auguste Roby. Et Auguste Roby était un caricaturiste d'une revue française qui s'appelle La Baïonnette. Et donc c'est une revue satirique. Et je trouvais effectivement les aliens qui sont en train de regarder donc, la planète bleue, mais en feu, effectivement, s'étonnent de ce spectacle désolant, en disant qu'est-ce qui se passe là, les terriens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire.
Le nom du caricaturiste
Je l'ai dit tout à l'heure.
Auguste.
Roby. Auguste Roby. Auguste Roby. Voilà. Et donc, c'est une caricature de 1918. Et on voit effectivement que toute l'hémisphère nord est en feu, bizarrement. Hein. Pas le sud global est en feu. Mais... Et donc l'argument des aliens macrocéphales, hein, comme on le dit, et puis naturellement vertes, hein, et ben, je pense que les terriens sont en train de lutter contre le refroidissement de climat. Donc effectivement, on pourrait se dire, est-ce que les aliens se sentiraient encore aliénés aujourd'hui? Donc effectivement, c'est une image qui provient d'une revue intitulée « La Première Guerre mondiale vue d'autres planètes ». Et c'est bien plus longtemps, bien avant l'image de « Whole Earth Images », donc de la fin des années 60, dans les 70, où pour la première fois, on voyait en fait la planète Terre dans une fragilité qui rappelle en quelque sorte la fragilité d'une cellule. Hein. Donc le micro, le macro, pour moi, il y a aussi beaucoup lié. Donc voilà, c'est juste pour lancer un peu l'historique. Alors, comme Kevin a déjà dit tout à l'heure, on a la semaine prochaine un événement dans un lieu qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un des rares espaces dans la région parisienne qui est exclusivement consacré à la performance. Donc le générateur, donc à Gentilly. Et donc on organise la semaine prochaine un événement de 2 jours, justement de la performance à la performativité. Il y a quelques flyers qui circulent. Et donc je laisse passer aussi effectivement la revue. Donc on a, pendant la pandémie, avec Lucy Strecker et 44 auteurs internationaux, travaillé justement sur cette notion de micro-performativité. Et donc c'était la revue Performance Research, donc c'est un peu le journal qui est un peu le journal de référence pour la théorie de la performance, mais aussi la notion de performativité. Les deux notions se recoupent, mais ne sont pas tout à fait identiques, hein, donc il y a aussi une historique qu'il va falloir illuminer un petit peu. Et donc là, on se demande qu'est-ce que c'est la performance aujourd'hui au vu des effets anthropogéniques, changement des climats, disparition d'espèces, etc. Et est-ce que la performance en tant qu'art, où généralement on est confronté à un performeur, à une performeuse, qui dans un rayon ou dans un espace-temps relativement défini, c'est-à-dire dans une bulle que j'appelle mésoscopique, donc est-ce qu'on peut percer cette bulle mésoscopique d'une action en fait humaine qui se limite à un espace-temps, je dirais 2 mètres carrés pour un danseur ou 2 minutes pour un pop song ou 2 heures pour un opéra, Donc au niveau échelle, au niveau de l'échelle à la fois spatiale et temporelle, qu'est-ce que ça peut faire la microparfumativité? Quand le performer sont en fait des enzymes de séquences génétiques, de bactéries, de champignons, d'où la connexion avec Roberto, de phéromones, de composants organiques volatiles à travers lesquels communiquent par exemple les arbres à distance, etc. Et comment pourrait en fait élargir la notion de performance à des objectivités non humaines, à la fois techniques et biologiques, c'est-à-dire des entités plus petites, ou bien aussi des microphénomènes comme en fait le mouvement inconscient du soi-disant système végétatif. Qui est appelé végétatif parce qu'en fait il fait appel à une certaine présomption de passivité. Hein? Donc la plante en tant que passivité, donc le végétatif, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc du coup, en fait, c'est un festival où on va mettre en scène et réfléchir sur les agentivités non humaines. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui va se passer. Donc il y a 9 intervenants dans ce festival. Donc. Il y a entre autres Chris Alta, qui a été le directeur du laboratoire Hexagram à Montréal pendant des années, mais qui est à la fois un ancien assistant des chorégraphes Foresight, mais qui est en fait un auteur de 5 livres sur la performance et les actions performatives. On a effectivement aussi des interventions sur les bactéries, en tant que performeur en 2D ou en 3D, sur en fait, l'expérimentation sur soi. Marion Lavalgenté de Art Orienté Objet, qui sera sur place aussi, avec laquelle j'ai eu le plaisir dans le passé de travailler, y compris sur cette performance de transfusion de sang de cheval, où en 2011, en fait, Marion Lavalgenté, dans notre performance en Slovénie, se faisait injecter en fait, du sang, pas seulement du sang complet, mais en fait, d'une série d'immunoglobulines chevalines. Y compris le plasma, pour justement en fait, traverser cette barrière d'espèces et d'avoir une espèce de fusion moléculaire en fait, de protéines de surface, de manière à ce que l'effet sur son système endocrin soit perceptible, mais sans que pour autant elle tombe dans un état de choc anaphylactique. Et donc, elle va parler aussi dans ses performances, dans son psychologue, de sa récente action de en fait, s'implanter un foro tropical par l'intermédiaire d'un microbiote de même membre d'une communauté pygmée en Afrique. Donc il y a un microbiote extrêmement riche, et donc qu'est-ce que ça fait en tant que performance quand on porte le microbiote dans son corps de quelqu'un qui vient d'autre région avec une biodiversité bien plus grande. Donc voilà, c'est juste des exemples de ce qu'on va écouter. Ensuite, on aura 3 performances où des humains sont quand même néanmoins impliqués. On aura notamment Yamarusic, qui est effectivement aussi la personne qu'on aperçoit sur la couverture de cette revue, où on ne voit pas trop ce que c'est, mais en fait, c'est une performance sur laquelle on travaille ensemble dans les années 2000, c'est-à-dire c'est une pièce qu'il a fait en 2007 qui s'appelle Blue Remix. Et Blue Remix déplace justement le geste physique du performeur vers la physiologie et donc vers l'intérieur. Donc c'est une performance pour l'intérieur du corps, c'est-à-dire une programmation du corps, une chorégraphie de bleu de méthylène à l'intérieur du corps, suite à laquelle en fait, le performeur va se trouver dans un état de pouvoir laisser couler de manière contrôlée une larme à gauche, une larme à droite, puis c'est toute la bave, puis c'est l'urine, et puis c'est tout le métabolisme qui en fait est mis en scène jusqu'à ce que le performeur Yamarusic, nu dans une boîte transparente, devient complètement bleu, alors qu'il y a un DJ qui remixe ce bruit intérieur du corps. Donc du coup, c'est la passivité, et puis avec Yamarusic, j'ai également en fait, organisé un festival au Lyonique encore à Nantes en 2018, qui s'appelait 30 ans d'immobilité. Donc, c'est un ancien danseur qui a dansé avec Roland Petit dans le Bonne Compagnie, qui était directeur de théâtre lui-même. Après, il a dit, bon, j'arrête de bouger. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus le geste physique, mais c'est la physiologie. Et donc, c'est la performance qu'on va programmer. C'est bain brisé. Donc, c'est un bain Donc ça s'apparente effectivement à de l'eau, mais en fait il sera submergé par une substance bien plus agressive, c'est-à-dire par 600 kg de verre brisé. Il y a juste le petit doigt qui va sortir et il va s'en libérer avec des micro-mouvements complètement inconscients. Après une séance de 6 heures, de 6 heures, de 7 heures de yoga, il va être complètement couvert, il va se trouver son chemin. Et son cerveau sera assez désactivé et puis c'est juste le corps, par les micro-mouvements, qui va s'en sortir. Ensuite, on a une performance durationnelle, c'est en fait de Virgil Novarina. Virgil Novarina est poète, il est aussi cinéaste. Il a fait un très beau film récemment sur Eduardo Katz et Thomas Pesquet, sur justement des œuvres créées à la Station internationale dans la pesanteur, en même temps qu'il a accouché d'un film sur l'artiste Pinocelli. Mais les performeurs, en fait, ces performances, c'est des performances de performance de dormir. Et donc, ensemble, avec un dispositif technique développé par la chaire Arts Sciences, notamment par l'équipe de Jean-Marc Chomaz et ses alliés, en fait, à l'école polytechnique à Paris-Saclay. Donc, il a développé un dispositif qui traduit en temps réel les ondes différentes de son sommeil dans des ondes, dans un aquarium, dont la densité, donc couches en fait, d'eau, en fait, sont régulées par des densités différentes. Donc, en fait, il y a une espèce de transposition de ces états de rêve en dispositif en aquarium. Et donc, c'est ça aussi qui va accompagner la performance. On a ensuite aussi une collaboration avec un centre d'art qu'on adore, c'est-à-dire le Centre Wallonie-Bruxelles, que je pense que beaucoup connaissent maintenant parce que c'est une plateforme de théorie féministe, écoféministe, etc. Et puis une plateforme intellectuelle en croissance face à Beaubourg, actuellement en fait en réhabilitation, mais qui, avec l'arrivée de Stéphanie Pécourt à la direction, en fait devient un vrai acteur contemporain expérimental sur Paris. Donc on est aussi fiers de travailler avec Stéphanie Pécourt et son équipe donc, du Centre Wallonie de Bruxelles. Et ça sera effectivement à travers une action en fait performative de Vincent Martial et l'artiste belge Gwendoline Robin. Ça s'appelle Micro Explosive Road. Et là, en fait, c'est la mise en scène des événements microscopiques. Ça peut être la glace carbonique, de matière explosive, des bougies, en fait, avec une transposition en fait, sonore de ces événements qui, effectivement, normalement, nous échappent. Et donc, voilà, je reviens un petit peu à cette notion de micro-performativité, peut-être en général, et montre quelques images de ce qu'on peut entendre par cela. Alors ici, par exemple, on a c'est un festival qui s'est tenu en 2018 à Munich, en Allemagne. C'est un travail curatorial dans le cadre d'une collaboration de longue date que j'entretiens avec un lieu qui s'appelle la Mofathalle. Et Nicolas et Maria étaient récemment aussi présents pour un festival sur Green Studies, justement avec une pièce. Donc, vous pouvez peut-être tout à l'heure parler de votre vision de Green Studies à votre façon. Et là, on a fait un festival où une salle de spectacle s'est demandé quel était en fait le futur de la performance. Et on me dit, bon, Jens, tu as une idée, tu sais, bon, je pense que c'est la micro-performativité. Je dis, d'accord, on fête le 25 ans avec un festival sur la micro-performativité. Donc, on a invité plein de fourmis, de vers de terre, de vers de farine qui dégageaient en fait un bruit qui créait un espace sonore dans un coupole géodésique en fait en bouffant du polystyrène. Donc, notre déchet est transformé en action artistique par une agentivité microbienne en quelque sorte qui va nous débarrasser de nos déchets. Ou bien dans ces cas-là, en fait, c'est une performance ici de l'artiste russe Yulia Borovaya qui va en fait mettre en scène un corps humain qui va se couvrir en l'espace d'une heure complètement de cristaux de menthol. Donc en fait, il y a des dendrites qui poussent partout, donc c'est un processus quasiment invisible, mais il y a une performeuse qui, dans un aquarium, et qui, on peut voir effectivement les cristaux se poser sur sa peau en l'espace d'une heure. Et c'est effectivement par une espèce de changement de, d'état donc, solide, gazeux, et puis du mental qui se pose sur le corps de la danseuse. Donc, c'est une danse plutôt de molécules, danse de particules, plus que la danse du performant même. Effectivement, donc pour nous, ça renvoie à une espèce d'agentivité de la matière, le microprocessus qui effectivement sont très importants quand on regarde l'écologie actuelle, et justement qui échappe à notre mainmise en fait en tant que homo faber qui contrôle tout. Et voilà donc la panoplie des artistes invités. On travaille beaucoup aussi avec l'Université des Arts Appliqués à Vienne, qui effectivement ont créé aussi un Angewandte veut dire appliqué, Angewandte Performance Lab. Donc en fait, et on a effectivement une festival de 2 semaines carrément sur la notion de micro-performativité appliquée. Pour moi, tous ces débats ont commencé un peu en 2003 déjà, avec le groupe Symbiotica de Perth, donc Oren Katz et Yonat Zur, qui effectivement était le premier en fait qui véritablement questionner qu'est-ce qu'on peut faire avec la culture tissulaire comme moyen d'expression artistique, et qui proposait en 2003 dans cette exposition une performance intitulée Disembodied Cuisine, qui consistait à faire pousser sur des structures de polymères dégradables la culture de steppe de grenouilles en croissance en tant que sculpture tridimensionnelle comestible. Donc, ça a commencé par un prélèvement en fait, des cellules de muscles de grenouilles. Et puis, le steak de grenouilles était en fait, alimenté comme dans un zoo, en même temps que le grenouille continuait à vivre à côté. Une fois qu'on avait cultivé des cellules de grenouilles, qui avaient une espèce de taille comme une pièce d'un euro, on organisait une petite fête. On engageait un cuisinier. Puis une fois qu'on avait mangé le steak des grenouilles, on a relâché en fait le batracien, en fait heureux d'avoir échappé au supplice de l'abattage, c'est un souffle dans le jardin botanique.
Voilà. Un petit commentaire de contexte, on parle de quelque chose qui a eu lieu en 2003, c'est ça, hein? Donc bien avant le hype de la viande de culture. Ensuite il y a des startups, qui ont des gens qui ont fait quasiment la même chose, juste avec un storytelling différent pour se faire financer par des millions de dollars. C'est un commerce qui est en train de s'effondrer actuellement, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est un premier commentaire. Donc, c'est un cas vraiment unique où les artistes ont été complètement plus que pionniers. C'est presque copié.
Mais ils étaient cités comme référence scientifique d'avoir été le premier à le faire.
Bien sûr. Et Ron Katz a été invité dans des colloques de start-up et des trucs comme ça. C'était tout à fait étonnant. Et du coup, j'ai une question à te poser. Il y a quelques mois, ils étaient inquiets justement sur leur statut universitaire. Et quelles sont les nouvelles de Ron Katz et de Yonat Zur?
Bah, c'est très mauvais, c'est-à-dire qu'ils ont créé en 2000 le premier laboratoire au monde qui est dédié en fait à l'éducation des artistes en matière d'apprentissage, de critique de biotechnologie, qui s'appelle donc Symbiotica à la Western Australian University, University of Western Australia, OUA. Et ben voilà, il y a un management qui vient d'arriver, qui dit bon, là ça suffit, pourquoi l'art, la science, ça fait aucun sens. Et donc ils essaient de démanteler justement Symbiotica. Donc ils ont eu un petit sursis, c'est-à-dire qu'ils ont eu le sursis de pouvoir achever et compléter, enfin permettre aux étudiants engagés dans le circuit académique de finir leur master. Donc ils ont créé aussi au monde le premier master d'art biologique. Et donc c'était des sociologues, des artistes, de sculpteurs, etc., mais parfois aussi de biotechnologistes réconvertis en quelque sorte. Et donc, ça annonce très très mal.
Est-ce que c'est leur côté critique? Est-ce qu'ils sont victimes du discours un petit peu critique qu'ils ont sur les biotechnologies?
C'est bien possible parce qu'effectivement, le milieu anglo-saxon, effectivement, les biotechnologies sont quand même assez positivistes, mais c'est pas ceci qui est mis en avant en tant qu'argument. Mais c'est vrai que cette action était, la dimension critique réside aussi dans le titre, parce qu'on on dit « victimless leather » ou « victimless steak », c'est-à-dire le steak de grenouille sans victime animale, ou bien après le vêtement en cuir Ils ont fait des mini-vêtements en cuir qu'on a ensuite exposé au Luxembourg, au Casino, puis à Luxembourg et à Liverpool pour la capitale culturelle européenne. Et quand on dit « witness leather », bah, c'est un peu ambigu, puisqu'il faut quand même le médium de culture, en général, enrichir en fait des sérums de veau. Et pour obtenir le sérum de veau, bah, c'est un peu comme la fable La Fontaine, pour faire un steak de grenouille sans victime animale, il faut tuer le bœuf. Et donc il y a une contradiction, c'est-à-dire que pour l'instant la question n'est pas résolue justement en fait du sérum de veau, parce que ça vient en fait et ça vient aujourd'hui commercialisé dans des bouteilles très très jolies donc qu'on achète, mais en fait aucun scientifique se pose la question quel est l'état des victimes actuellement dans le sérum de couture.
Je vous fais un nouveau commentaire de contexte pour ceux qui suivent l'actualité justement de cette viande cellulaire les startups qui se sont lancées là-dedans, elles ont toutes promis de remplacer ce sérum par un truc qui serait vegan, mais c'est secret et personne ne sait vraiment la vérité de la chose. Et c'est peut-être aussi l'explication du fait que le succès promis de ces steaks de culture, finalement, il n'est pas au rendez-vous.
Pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous. De toute façon, la contradiction n'a pas encore été abolie. Il y a beaucoup de projets artistiques qu'on voit passer en fait, à Ars Electronica, le plus grand festival en fait, du monde international dédié à la culture contemporaine, art et technologie, et où j'ai la chance d'être dans le jury chaque année depuis le 2007, et chaque année, effectivement, de voir 800 projets et de voir un peu ce qui se passe. Donc chaque année, on a effectivement beaucoup de projets qui commencent à s'intéresser à cette contradiction. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un médium de culture qui soit effectivement à base végétale, par exemple ? Voilà. Donc pour le contexte, pour revenir à la microperformativité, c'est assez intéressant parce que là, on voit effectivement les artistes présentent le menu au boucher, au marché local, à Nantes, etc. Venez, nous, on fait la viande sans victime animale, c'est ça le futur. Et puis, les portions étaient quand même un peu décevantes, hein, c'est-à-dire ça n'allait pas alimenter la foule. Puis c'était pas tellement bon, on a fait un peu à l'ail, au calvados, flambé, parce que finalement, ce qui se passe quand on fait un steak de cellules immortalisées, on mange quand même des cancers. C'est pas super appétissant parce qu'on mange des cancers. Donc, on a bien fait flamber dans le calvados pour ne pas qu'il y ait de risque. Et donc, moi aussi, effectivement, que c'est intéressant pour moi parce qu'il y a un côté performance, il y a un côté performatif dans des cellules en croissance. Et là, il y avait un assistant de galerie qui vient me voir en 2003. Et Yann, c'est un truc qu'il faut que je te raconte, parce qu'il y a un monsieur qui arrive, qui veut voir tout le jour, qui voit la même exposition tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est bizarre quand même, parce que l'art contemporain, bon, on y arrive bien deux fois, trois fois. Et... Non, mais il veut voir si le steak des grenouilles se porte bien. Et donc, il n'avait pas vérifié le sourire de la Mona Lisa chaque jour, etc. Donc, on peut faire ça deux, trois fois, mais il venait chaque jour, apparemment. Donc, et je me suis dit, tiens, il y a l'agentivité qui contraste avec, justement, la performance. Il y a performance et performativité.
Mais est-ce que c'est bon ?
C'est pas bon, non. Non, la plupart des gens l'auraient craché. Et donc, après, les artistes sont réfléchis sur la table. Ils ont fait effectivement une installation « The Rest, The Remains of Disembodied Cuisine » pour justement se moquer, en fait, de propositions et de promesses hyperboliques de l'industrie. Pour dire, voilà. Donc, c'est une espèce d'installation à la fois utopiste, mais finalement dystopique. Hein. Et en fait, c'est un très bon ami, Adrian Heathfeld, qui est à la base de la Life Arts Agency à Londres. Donc c'est un milieu très très actif pour les arts de la performance en Grande-Bretagne. Et il a organisé en 2003 justement un énorme colloque sur art et performance à la Tate Modern. Et donc parmi tous ces gens-là, Abramovich, Yann Fabre, etc., bah, qui est-ce qui était invité? Oren Katz et Leonard Zura avec justement la performance de Snake Trigonoué. Et donc là pour la première fois en 2003, on voit ses publications « From Life to Life » en quelque sorte. Donc du live, la performance live d'un performeur en action, du live plus au sens du matériau du vivant. Et Adrian, effectivement, avait effectivement dans ce livre-là inclus ce projet de Disembodied Cuisine, mais dans le genre de la performance. Et ça fait tilt pour moi. Et c'est peut-être la première fois en 2003 qu'on parlait justement de la micro-performativité à ce stade. Donc, effectivement, on a toujours cette figure de Léonard de Vinci, etc., donc de l'homme du Vitruve, le nombrilisme, l'anthropomorphisme, et puis, effectivement, l'histoire des échelles et de proportions parfaites entre les dimensions du corps humain par rapport au cosmos, mais aussi par rapport au microcosme. Et puis, on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a une certaine mise en question donc, de ces métriques. Donc, on voit effectivement que voilà une espèce de subversion de l'homme de Vitruve par des acteurs qui effectivement voient plus la génétique ou la biologie cellulaire en étant au centre. Donc on a beaucoup d'échelles sur lesquelles les performeuses et les performeurs peuvent travailler, donc de l'atome, molécule, le gène, le protéine, ce qu'on appelle le metabolic pathways, le mécanisme subcellulaire, les cellules, le tissu, les organes, organismes, populations, mais aussi il y a beaucoup de projets actuellement en astrobiologie. Hein, il y en a un article justement dans leur revue, notamment sur comment travailler avec le matériau extraterrestre, hein, de molécules que les Japonais ont trouvées, par exemple, sur les lunes de Saturne, je pense. Donc, voilà. Donc, finalement, pour situer tout cela dans un contexte plutôt philosophique, je me réfère beaucoup à Chris Salta et son livre Entangled, donc Art et Performance, et qui se plaint justement que l'histoire de la performance, en général, pour beaucoup, commence dans les années 60, etc., mais qu'on néglige en quelque sorte cet aspect technologique depuis Kiesler, depuis Schlemmer, Oscar Schlemmer, etc., et qu'en fait que la notion de performance était déjà en fait quelque chose dans un esprit bien avant les années 60 avec le Fluxus. Donc c'est une espèce de questionnement de l'art de la performance qui serait né dans les années 60 ou 70. Et donc ce que j'aime bien, c'est comment Chris Alton, et ça converge un petit peu avec notre analyse, c'est-à-dire que la performance n'est pas la performativité. Donc on a un art de la performance et on voit qu'effectivement il y a de plus en plus de performativité dans l'art contemporain, mais tout cela ne peut pas se réduire à l'histoire de l'art de la performance. Alors, l'histoire de la performativité prend en fait son origine plutôt dans la linguistique, comme on sait avec notamment Austin, donc comme dire c'est faire, ou how to do things with words. Et donc pour nous, effectivement, c'est assez important de revenir un peu à ça. Donc en linguistique, c'est d'abord donc cet ouvrage « How to do things with words »« Comment dire, c'est faire » de John Austin qui propose justement la notion du performatif. Et Austin souligne qu'il y a au-delà de la part strictement langagière, il faut aussi s'intéresser donc à la nature pragmatique du langage et ces actes engendrés, hein, c'est les actes engendrés par le langage. Et donc, selon Austin, est performative toute énonciation qui déclenche une action ou fait partie intégrante de celle-ci de manière descriptive, pas de manière descriptive, mais constituante. C'est-à-dire qu'on ne décrit pas, on fait. Hein. Je te marie, ce n'est pas une déclaration descriptive, c'est un acte qui a des conséquences. Hein. Et donc, voilà. Et donc, avec « dire, c'est faire », Austin rompt ainsi avec la philosophie de langage traditionnel et différencie effectivement ce qu'il appelle les actes locutoires, qui ont une signification, les actes illocutoires, qui ont une force, et les actes perlocutoires, qui ont des effets. Et donc, ça, effectivement, ensuite, a des effets sur la théorie du genre, comme « gender studies », les études du genre donc, qui s'emparent du performatif. Des auteurs comme Judith Butler, par exemple, qui étudient justement l'enjeu politique de comment chacun ou chacune performe son identité, son langage et ses conventions sociales. Et donc, comment le genre en tant que tel résulte d'un processus de construction. Et donc, gender trouble, donc trouble dans le genre en français, donc le féminisme et la subversion d'identité, entend en fait la réalité ontologique. Donc pour dire voilà, tout n'est pas ontologiquement prédestiné, donc c'est un acte performatif. Troisième élément de ce puzzle, on doit chercher ça en anthropologie et en études de théâtre. Et donc là, en parallèle donc, aux études du genre, on voit que notamment la sociologie, l'ethnologie, notamment sous l'impulsion de l'anthropologiste Victor Witter Turner, et aussi du homme de théâtre Richard Chechner, qui a fait pas mal de colloques sur la performance ici à Paris, font du performatif une technique, donc une technique autoréflexive pour mieux observer et décrire les activités. Donc du coup, c'est un objet, enfin c'est plus un objet de recherche, mais une technique de recherche. Et donc le performatif devient une espèce de méthode. Donc en anglais, on dit que c'est un tournant du knowing what, donc de savoir que, de comment savoir. Donc la quatrième dimension du performatif, du coup, serait dans le domaine de la sociologie des sciences, ou Science and Technology Studies, ou STS. Donc ici, le programme performatif est du coup utilisé non seulement pour décortiquer le processus de production de connaissances dans le laboratoire, mais aussi on examine comment le dispositif technique eux-mêmes découple cette force performative. Et donc c'est là où rentre en jeu Bruno Latour avec sa théorie de Actor Network, etc., the AMT, Adverb Network Theory, etc. Donc ça veut dire qu'on parle désormais au-delà des actes humains, des agentivités non humains, des vivants non humains, des organismes modèles, de bactéries ou des objets techniques en tant que réseau complexe. Donc voilà, on a tout le puzzle un peu avec ces quatre éléments. Et donc aussi les participants au colloque vont effectivement bien être dans ces genres de grilles. Et Chris Salter, donc il y a un des intervenants qui nous fait l'honneur de venir de Zurich où il est maintenant basé, qui est professeur directeur de l'espace d'art immersif à la ZADK, donc la Hochschule für Kunst à Zurich. Et donc, il a effectivement fait une espèce de grille au niveau de théorie qui rentre aujourd'hui en jeu par rapport à ce qui est en fait le tournant performatif. Donc, l'art de la performance, mais aussi le côté performatif en science, le performatif en tant que pratique culturelle, etc. Donc, il sera question de ceci. Ça, c'est une performance qu'on ne va pas montrer la semaine prochaine, mais effectivement, puisque je l'ai évoqué, je veux la montrer. Donc, c'est Tina Torpgaard, un ami chorégraphe du Danemark, donc de Copenhague, qu'on a invité aussi pour une action intitulée Ouvert. Et donc, c'est là peut-être le lien vers le Green Studies, en quelque sorte. Donc, effectivement, c'est une action écologique ici qu'on a performeuse. Fait travailler de milliers de verres de farine dont le microbiote est capable justement en fait de digérer de la polystyrène. Et donc ensuite il y a effectivement une espèce de résonance tellement forte que ça remplit tout ce dôme. On peut rendre visite à la performeuse qui est habillée dans la même couleur que le verre. Et donc elle va être en mouvement pendant 8 heures, mais c'est le mouvement à peine perceptible, alors qu'en fait sur le plan microscopique on voit vraiment une action débordante justement des entités qui nous débarrassent de nos déchets.
Donc, question naïve, les vers de farine, ils peuvent vraiment manger le polystyrène?
Oui. Peut-être pas toutes, mais donc, il y a des variétés. Donc là, effectivement, ça donne un soundscape assez étourdissant. Voilà, des questions derrière, c'est effectivement la performance aussi, comment je me déplace pour ne pas écraser justement mes petits amis.
J'ai une petite remarque intéressante parce que j'ai regardé un petit peu ça sur les différents verres qui sont censés être capables de digérer différents composés plastiques, polystyrène. Et il semblerait qu'il y ait une dégénérescence dans les générations qui suivent en fait. Donc c'est pas viable comme une solution au long cours parce que ça produit une espèce de dégénérescence sur les composants. Très vite. C'est juste marrant. Il y a quelque chose qu'on va... qui est intéressant par rapport au récit officiel.
Juste une petite page de publicité. Début mai, ici, on a dans le MIJ une personne qui viendra nous expliquer comment les microplastiques interviennent au niveau d'organismes macroscopiques que sont les dauphins et les rendent malades à un truc qui ressemble à Alzheimer.
Alors, je laisse passer ce livre-là. Donc, en fait, quelques exemples que je viens de montrer déjà. proviennent d'une série de colloques, de festivals qu'on a initiés depuis 2018 dans le cadre d'un projet européen qu'on a écrit ensemble avec un centre à Riga, en Lettonie, le RIXI. Donc RIXI, c'est un lieu extraordinaire qui a travaillé beaucoup dans les années 90-2000 déjà sur les ondes électromagnétiques, sur les anciens équipements de l'équipe de l'armée soviétique. Donc ils ont invité beaucoup d'artistes très tôt sur des questions d'utilisation d'infrastructures militaires, mais qui se sont progressivement intéressés aux questions écologiques. Donc on a écrit un projet qui a été accepté 3 ans, donc avec des expositions dans des workshops dans 7 pays différents, y compris ici en France, justement avec la programmation ouverte en 2019, donc ouvert, phytophilie, chlorophobie et savoir situé. Donc c'était à Anthropos Hémotrope à Bourges, et une grande exposition au Musée national de Riga, donc en Lettonie. Et donc, issu de ces programmations, et aussi ce livre justement qu'on vient de publier tout justement au mois de novembre l'année passée. Et là, là, il y a quelques partenaires. Donc, et pour moi, le Green Study, c'est quelque chose que je traîne avec moi depuis 30 ans. Et là, j'ai déjà expliqué cette image-là. Il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé justement sur cette ambiguïté. Là, on voit l'image du groupe d'artistes Hehe, Heiko Hansen et Helen Evans, qui forment le groupe Hehe, et donc qui sont installés maintenant en fait au Havre, où ils ont créé une institution qui s'appelle AM, Art, Média et Écologie. Et donc ils ont travaillé ici aussi avec justement Jean-Marc Chomaz de l'École Polytechnique pour faire une espèce de simulation miniature d'une explosion dans un tour de refroidissement d'une centrale atomique, mais sous l'eau. Donc on voit effectivement cette fleur de lys qui s'échappe, et puis c'est vert, donc l'énergie atomique qui est du nouveau verte aujourd'hui. Donc là on est quand même déjà un peu dans le greenwashing. Et donc voilà, à ces propos-là, donc, ça fait 30 ans que je collectionne tout ce qu'il y a avec le vert, en fait. C'est-à-dire le vert en tant que couleur, en tant que phénomène optique, en tant que phénomène physiologique, en tant que... éléments de chimiques, pigments, instabilité des pigments, quand le vert est devenu la couleur des écologistes, quelle était la signification du vert. Donc effectivement, voilà, j'ai organisé 5 colloques internationaux sur la question « qu'est-ce que c'est le vert ?» Et j'aimerais bien passer un petit clip, parce que tout le monde parle de la sécheresse aux États-Unis, et puis je ne sais pas si vous savez que dans l'état de Nevada, et notamment à Las Vegas, il y a désormais interdiction de pelouse verte dans le jardin. Donc, effectivement, il y a quasiment, voilà, donc ce qui était en fait la pièce prolongée du corps humain, en fait, transposée en surface décorative devant la maison, est désormais interdite. Et en même temps, la sécheresse en Californie amène des compagnies privatives à recourir à des astuces que je vous montre dans la petite vidéo, qui effectivement, je le dis en avance, n'est pas une espèce de fake de Jess Man.
C'est interdit à cause de l'eau.
Oui, c'est ça. Il y a plein de réduits d'eau, mais en fait, oui, il y a un état qui le traite comme ça, et puis l'autre, il pense avoir une toute autre réponse à la question. C'est assez drôle.
C'est un appareil moderne.
Ouais, il faut le rebrancher.
Il fait des économies.
Ok. Allez, on recommence. Attention à la musique.
Drought is drying up lawns all over the Bay Area right now, but there's still a way to keep it looking lush without any water at all.
Approximately 7 years ago, when the housing crisis began in the Central Valley of California, we were approached by a group of bankers, realtors, property management services, and the county governments to come up with a solution for the dried and distressed grass that was popping up all up and down the state.
Green Canary stains lawns green. The Los Gatos company is spraying about 75% more than normal. Today it took the crew about an hour to give the grass its new hue.
This is a company that is
Montalvo
providing non-toxic, environmentally safe products to cover small patches of ground cover, and it was phenomenal.
Trouver une solution à la sécheresse.
So at the time we started on this project, we did a little bit of research and we found that grass painting and lawn coatings was a technology that was fairly mature. It had been around for about 50 years, used for sports fields, golf courses, football fields. And we looked at the products and we really were not happy with what we found. We found that they yielded inconsistent results. The environmental profile wasn't up to our standards.
Green lawn may be the latest casualty in the state drought emergency, but some homeowners are not giving up without a fight.
So now take a look at the difference. This is what this lawn looked like this morning, and this is what it looks like now. If brown is not your color, your grass can always be greener.
C'est ça que j'aime, hein? Une solution globale. Green Canary et Green Solution. Hein? Donc on est effectivement, c'est le Danube bleu, hein, d'ailleurs, la mélodie derrière. Donc voilà.
Ça existait en France aussi, hein, quand le parc André Citroën a été inauguré par, vous voyez, c'est un parc avec notre collègue Gilles Clément qui a fait une œuvre qui est réputée dans le monde entier. Et il y avait des arbres qui étaient morts et il fallait au moment de l'inauguration que le président, je ne sais pas, c'était peut-être Mitterrand ou Chirac, j'ai oublié, voit un très beau parc et donc ils ont peint les arbres morts en vert.
Alors les Héhé, ils sont intervenus lors de la Nuit Blanche une année. Pour en fait peindre des arbres en vert aussi, mais avec de la fluorescine. Donc ça donnait en fait des arbres fluorescents de la nuit. Donc c'était une procédure, effectivement, c'était ici au parc Montsouri, pas très loin. Donc effectivement, on sait que depuis Donald Trump, c'est pas le changement climatique, pas du tout, c'est le Chinois, non, qui a inventé le changement climatique alors que le paradis est en feu. Hein. Et voilà, c'était la fameuse blague, on disait, voilà, ça n'arrive jamais en Finlande, parce que le Finlandais, en fait, il ratisse la forêt, non? Le premier ministre finlandais, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi, je sais pas. Et donc, c'était la blague partout, non? Make America rake again, or rake America great again. Et donc, mon premier pamphlet pour ce que j'appelle The Greenest Studies, j'ai pas le livre avec moi aujourd'hui, mais je le recommande et je peux aussi le mettre à disposition en PDF pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc, c'est un livre paru aussi donc en 2018, The Aesthetics of Necropolitics. C'est à part mon article à moi, c'est aussi Biffe Varadi, Critical Art Ensemble, Martina Grzynek, etc. Donc c'est effectivement la théorie critique par rapport à justement quelle esthétique adopter en fait dans cette période de nécropolitique en quelque sorte. J'ai été invité aussi à la Biennale, donc d'abord de Yekaterinbourg à Orosi, qui était la plus grande Biennale d'art contemporain. Donc, j'étais d'abord sollicité pour savoir si je ne voulais pas devenir directeur de la Biennale. Je dis, bon, vous lirez un peu la Crimée, après on parle, hein, parce que sinon on va se faire assassiner. Et donc j'arrive là-bas, et puis le thème c'est immortalité. Et puisque c'était sur l'immortalité, tout était vert. Et là c'était dans le complexe militaro-industriel, donc c'était en fait co-sponsorisé aussi par Kalashnikov. Et donc, c'est un biennale d'art contemporain qui avait pour thème l'immortalité. Donc, le petit Jadad Gedge, j'ai acheté des chaussettes vertes qui en disaient immortalité en russe, etc. Et finalement, c'était la couleur aussi de biocosmiste russe. Et le biocosmiste russe, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, aux alentours de 1910, c'est un mouvement en fait, philosophique qui a d'abord prôné qu'il fallait absolument inventer l'immortalité pour la race humaine. Hein, pour,
Kevin, c'est quand qu'on a le cosmisme russe ici au Mige? C'est en route.
Hein, de quoi?
Les cosmistes russes, c'est en route.
Non, pas encore.
Mais c'est
ah oui, bah, c'est bien, ça tombe bien. Et en fait, c'était c'est Bogdanov, Tcholskovsky, Fedorov, etc. Donc, toute une bande, effectivement, d'avant-gardistes russes qui, effectivement, prônaient Bogdanov par la transfusion de sang, justement, la vie éternelle. Et puis, il y avait d'autres qui, effectivement, pensaient que si la vie éternelle, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de place sur la planète. Donc, du coup, il faut absolument, en fait, peupler les autres planètes. Donc, effectivement, il y a déjà une espèce de néocolonialisme spatial qui est su, en fait, philosophiquement, parler, en fait, du cosmisme russe. Hein. Donc, on nous a amené aussi à visiter de mines à ciel ouvert d'arsenic. D'arsenic et de... Attends, là, c'est pas de l'arsenic, c'est de l'amiante. Là, c'est l'amiante. Mais en fait, avec des monstres, des machines, etc. Puis, oui, vous êtes russophobe, etc. Vous n'aimez pas l'amiante, etc. Bon. Donc, le verre, effectivement, c'est le verre, hein, comment ? D'accord. Donc, ça m'intéresse, comment, en fait, dans l'histoire de culturelle, le verre est d'abord une couleur qui représente la richesse, le jardin Louis XIV, etc. Puis, c'est toujours aussi le jardin, c'est le lieu d'action, hein, c'est planter des arbres, etc. On fait croître quelque chose, donc... Il y a une espèce de résonance entre green and gross. Et finalement, c'est la même racine étymologique aussi, hein, entre green and gross. Et en fait, green, dans la plupart des langues, est associé en fait au fait de croître. Et donc, green gross, c'est effectivement ce qu'on a déconstruit aussi avec justement disinnovation.org, justement lors des derniers festivals à Munich. On a déconstruit un petit peu pourquoi justement cette vocable de croissance est en fait tellement associée au vert. Donc, on a essayé de dissocier la croissance du verre. Donc il y a des paradoxes, effectivement, comme ici dans le pays arabe, où on a des énormes pelouses devant le musée islamique. Effectivement aussi, la pelouse tendue, hein, comme fétiche. Hein. Donc effectivement, il n'y a aucune imperfection qui est acceptée. Et ça, c'est aussi quelque chose que les artistes, ils sont, y compris ici, dans l'œuvre du Canadien Robert Hengebelt, Kentucky Perfect, il met en scène une espèce de pelouse parfaitement entretenue, donc qui est arrosée et qui est tendue tous les 5 minutes. Et voilà, donc c'est la surface anthropogénique par excellence, mais qui n'a aucune diversité et aucune fonction biologique. Donc quand je parle du vert, je parle toujours du fait que le vert, c'est la couleur la plus anthropocentrique. Parce que c'est que pour les animaux humains que le vert est vert. Et qu'effectivement, quand on regarde un petit peu, finalement, c'est que parce que justement la chlorophylle de plantes que l'animal humain identifie en tant que vert reflète cette fréquence dont le chlorophylle n'a aucune utilité, alors que le plante absorbe le bleu et le rouge, donc ce qui sont effectivement deux ondes hautement énergétiques. Et donc, justement, le spectre qui correspond à la fréquence verte pour nos œils, notre œil, est complètement inutile pour la plante. Ça veut dire que ce qu'on voit, c'est le déchet de la plante. Donc, on a une espèce de confusion ontologique fondamentale quand on dit que la plante est verte. La plante n'est verte du tout. On voit le déchet de la plante. On voit en fait ce qu'elle rejette. Donc, basé un peu sur ces paradoxes, je me suis permis, ah tiens, on pourrait créer des Green Studies et mettre ces paradoxes en fait au défi. Au profit d'une réflexion en fait épistémologique.
Si vous allez en Bretagne, vous regardez les serres industrielles où on fabrique les tomates, etc. Elles sont illuminées en violet. Est-ce que c'est ça que...
Oui, c'est le gross lamp, c'est le deux fréquences, c'est le rouge et le bleu.
Je crois que les enzymes qu'on a dans les yeux pour percevoir, elles viennent directement du végétal.
Comment ?
Chez tous les animaux, dans tout le règne animal, les enzymes qui permettent de percevoir la lumière dans les yeux,
ouais,
proviennent directement du végétal.
Les enzymes,
oui.
Parce que le plan de...
Tout le monde animal, quoi. Toutes les mêmes briques essentielles qui nous permettent de voir grâce à la photosynthèse, en fait. Enfin, le plan pourrait vérifier. Mais...
Bon, il y a beaucoup de similitudes. On a élaboré ça dans un colloque organisé par Evan Chardronneau il n'y a pas très longtemps aussi, sur le Homo photosyntheticus. Effectivement, il y a aussi une similitude extrême entre la hémoglobine et la chlorophylle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des molécules qui sont extrêmement proches et donc qui ont une fonction métabolique justement de transporter en fait le CO2 et l'oxygène. Donc il y a déjà en fait entre animal et humain, animal humain et plante, déjà en fait beaucoup de similitudes, de cet ordre-là. Donc, voilà, c'est peut-être la même chose pour ces enzymes. Et donc, quand on se balade avec son chien, effectivement, il n'a pas le même spectre. Donc, en fait, il n'a pas le vert, il n'est pas trichromatique. Et donc, il y a des théories d'évolution, notamment en fait en paléogénétique. Il y a récemment eu des articles en paléogénétique sur le fait que, apparemment, on a trouvé que c'est au moment où les primates ont acquis cette capacité trichromatique à distinguer le vert du rouge, que, en fait, il y a le gène nécessaire pour développer de manière efficace le système olfactif qui se sont désactivés. Ce qui voudrait dire, c'est qu'à partir du moment qu'on pourrait en fait, distinguer des feuillages et du fruit, qu'on n'a plus besoin de le sentir, et donc du coup, en fait, il y a désactivation de gènes responsables en fait, de notre appareil olfactif. C'est assez intéressant de penser à notre perception de couleur de cette façon-là. Peut-être on a payé avec un nez beaucoup moins efficace. Et donc voilà, quand on passe d'une discipline scientifique à l'autre, green ceci, green c'est ça, la biotechnologie verte, la chimie verte, etc. Mais quand finalement on va en climatologie, bah, quand on veut dire « oh, on va verdir la Terre bah, », c'est une catastrophe, parce que verdir la biotechnologie, c'est super, on va faire ça de manière un peu plus écologique, mais je frappe à la prochaine porte, j'ai un climatologue, mais c'est une catastrophe de verdir la Terre. Ça veut dire que c'est un indice d'activité anthropogénique, justement, avec une surcroissance, avec une pollution en fait, végétale, notamment les algues qu'on va flotter dans le Caraïbe, etc. Donc la surface végétale a augmenté sur la Terre, mais ce n'est pas forcément une végétation voulue. Et donc, effectivement, on a constaté, il y a des articles comme ça, que « green the planet », actuellement, c'est un grand problème. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est comment le « greening » et donc le « greenwashing » aussi, en fait, selon d'une discipline à l'autre, en fait, est employé de manière complètement contraire, souvent. Ce qui est bon dans une discipline n'est pas dans l'autre. Après, il y a autre chose qu'on peut regarder, c'est que, par exemple, dans le « langue », à travers la planète, toutes les langues ne font pas la différence entre le bleu et le vert. C'est très étonnant, mais on voit aussi ce qu'on sait. C'est-à-dire que si on sait que ça s'appelle bleu et ça s'appelle vert, on fait une distinction. Quand la langue ne présente aucune possibilité pour qu'on puisse faire cette distinction, on le voit peut-être comme un seul groupe. Ce qui est le cas notamment de pas mal de groupes linguistiques autour de l'Équateur. Donc, il y a des études justement sur ce qu'on appelle la catégorie du GRU, donc green and blue, ou du vlert en français, qui justement en fait mélange les deux termes. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc c'est l'usage de la couleur aussi, l'exposition massive à des dégradés des verts différents. Et je prends souvent comme exemple, ça aussi c'est un cinéaste qu'on avait invité en 2019 à notre festival ouvert donc à Bourges. Donc c'est un film de Ciro Guerra que vous avez peut-être vu. Il s'appelle L'entrainte de la serpente, l'abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra. En fait, c'est une histoire sur la colonisation de l'Amazonie et puis deux explorateurs, deux anthropologues qui sont à la chasse d'une végétale, d'une fleur magique, etc. Et puis, effectivement, le film est tourné en noir et blanc. Et il est exprès en noir et blanc parce que, d'une part, le réalisateur dit. Aucune machine, aucune caméra est capable de restituer ce qui est le vert de l'Amazonie. Et deuxièmement, ça fait aucun sens d'appeler ça vert parce que pour beaucoup d'ethnies habitant justement l'Amazonie, il y a 50 façons de dire vert. Il n'y a pas ce terme vert. Et donc, il a choisi en conséquence de tourner ce film, en tout cas de le réaliser, de le monter complètement en noir et blanc, précisément pour résister justement à ce verdissement du tout. Donc, on sait aussi que, et ça c'est une histoire assez drôle, ou pas, pour certains, mais que le vert a été toujours aussi la couleur la plus difficile à reproduire en tant que pigment. Et Michel Pastoureau, dans son livre « Vert », il en parle un petit peu aussi, il parle presque en fait du vert et de la fonction symbolique du vert comme capricieux, puisque c'est une couleur qui est chimiquement instable, difficile à produire, qui se dégrade facilement, et donc du coup, symboliquement, serait à représenter ce qui est capricieux. C'est une thèse un peu osée, mais en fait, il y a des phrases dans le livre de Michel Pastoureau qui me parle de ça. Après, donc là, à gauche, on a, en haut, on a une image d'un groupe danois qui, pendant une conférence que j'organisais aussi avec Timothy Morton, était en train de faire une peinture de paysage, peut-être le plus approprié, c'est-à-dire avec des épinards brouillés. Le problème, c'est que la chlorophylle est tellement instable que quand ils ont commencé, quand ils ont fini en bas, ils auraient commencé en haut, parce que ça ne couvrirait déjà plus. Donc, c'était pour effectivement démontrer l'instabilité de la chlorophylle. Hein. Et donc, il y a des peintres, effectivement, comme Turner, qui effectivement travaillaient justement sur le côté éphémère de certains pigments et sur la stabilité des autres. Et il y a une histoire assez intéressante, parce que c'est seulement depuis 1775 qu'on sait faire des pigments stables, frais, qui ressemblent à des végétaux. Alors qu'avant, c'était la malachite, la terre verte, etc. Mais les couleurs relativement pâles, ou bien des mélanges du bleu ou du jaune. Et que c'est à partir de 1775 et l'invention d'un chimiste suédois qui s'appelle Carl Scheele, qui est effectivement en même temps la personne qui a découvert l'atome de l'oxygène, et qu'effectivement, on a synthétisé pour la première fois un verre qui tient vraiment. C'est le verre de Scheele, sauf qu'il est à base d'arsenic, il est hyper toxique. Et donc, on sait que Van Gogh, par exemple, et là je viens du Harvard Museum, où il y a l'autoportrait en hommage à Gauguin, qui est basé dans l'entrée à droite du Harvard Museum of Art. Et donc, je fais des études sur le pigment vert toxique dans l'histoire de l'art. Et donc là, c'est très intéressant, parce que Van Gogh, c'était un enthousiaste de ce pigment-là, qu'on appelait d'abord le verre de Scheele, puis le verre de Schweinfurt, parce que c'était le fabrique de l'usine Zappla à Schweinfurt, en Bavière. Et puis après, en fait, on l'a importé en France, et c'était le verre de Paris. Le verre de Paris, c'était d'abord un raticide. Et donc, les impressionnistes sont partis dans le verre pour se choper une intoxication à l'arsenic, donc c'est assez drôle. Donc, on ne sait finalement pas combien d'amateurs d'art, effectivement, ont payé le prix fort pour essayer de reproduire la verdure. Donc, et Van Gogh, effectivement, on était un. Donc ceci n'a pas échappé à notre ami Adam Brown. Adam Brown est un artiste avec lequel je dirige un programme de résidence d'artistes. Donc on invite 3 artistes par an, mais dans un cadre plutôt technoscientifique, à la Michigan State University, donc à pas très loin de Detroit. Et donc on a à un moment donné trouvé que l'amphithéâtre où on invitait notre artiste pour donner des conférences s'appelait l'amphithéâtre Katzi. Donc, on est Katzi Hall, Katzi, so what, non? Qui était Katzi? Donc, on a trouvé Katzi, par hasard, était un chimiste américain du 19e siècle qui a écrit un livre Shadows from the Walls of Death, nos ombres du mur de la mort. Et donc, c'est un livre qui mettait en garde contre la toxicité de pigments d'arsenic vert dans le papier peint de l'intérieur. Et donc, du coup, Adam Brown a fait une performance. Donc, on l'a fait à Bourges, on l'a fait au milieu du musée d'art contemporain à Riga, etc. Et puis, avec un grand laboratoire pour synthétiser, en fait, cette recette de 1775 en direct. Et puis, de faire un atelier de peinture, justement, voilà, d'appliquer la recette de Carl Scheele, justement, qui avait trouver ça et puis de faire de papier peint en temps réel en tant que performance. Il a aussi répliqué à l'échelle miniature la fameuse fenêtre verte. Vous connaissez peut-être le salon de Van Gogh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études de conservation par rapport à cette peinture et que le sol, le lit, quasiment toute la surface de la peinture a fané. C'est-à-dire que le vert, le bleu, le jaune, et la seule couleur qui est quasiment restée à l'identique, bah c'est la fenêtre. Et on sait pourquoi. Donc là, dans cette performance, Adam Brown fait une micro-performance, en quelque sorte. Là, on rejoint le Green Studies et la micro-performativité, où en fait, une copie rudimentaire de la fenêtre verte de la peinture de Van Gogh est détoxifiée par des bactéries extrémophiles pour justement nous débarrasser de ce verre toxique. Et puis dans une autre performance, il a planté sous de tournesol, le tournesol qui est un motif représenté très souvent dans le peinture de Van Gogh. Et en fait, c'est là, c'est le, c'est le véritable, là on ne le voit pas, ça c'est une autre image que je n'ai pas mis dans la présentation, mais Alan Brown plante donc, des tournesols en terre, une fausse peinture de Van Gogh, une espèce de copie avec le pigment toxique, et puis il est en terre, et puis c'est le tournesol qui détoxifie en fait la représentation de la peinture aussi dans le sol. Voilà, donc peut-être c'est le tour de la question, comment Green Studies et les études du verbe et donc la microperformativité se recoupent quelque part. Les deux sont des attitudes, je trouve, qui permettent d'avoir un regard post-anthropocentrique, qui effectivement déconstruisent de liens au niveau langage, on fait trop facilement entre naturel, vert et vivant. Donc naturel, vert et vivant, là, c'est des concepts avec lesquels on opère beaucoup et sans beaucoup y réfléchir. Et voilà, je pense que ces pratiques artistiques et les discours philosophiques qui vont avec permettent peut-être de déconstruire ce qui paraît un peu de métaphoricité un peu trop facile. Et je voudrais bien ouvrir les débats et puis entendre ce que sont vos expériences propres avec le verre, les bactéries, nos agentivités quotidiennes.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a déjà une question là-bas. Non.
Non, si j'avais une question quand même. Tout à l'heure, tu parlais de EE là, et de la leur explosion miniature. Et tu dis, c'est parce qu'il y avait la couleur verte, tout ça, tout ça, c'est déjà du greenwashing. En fait, c'est juste pour comprendre en fait, comment tu arrives à faire ce lien-là, parce que pour moi, ce n'était pas un lien parfaitement logique. C'est juste un petit détail.
D'accord. Quand ils ont fait la performance, c'était d'abord prévu pour la fondation EDF. Ils ont eu de commandes pour la fondation EDF, ils ont, pour plusieurs de la performance, dû changer les titres plusieurs fois. Hein. Donc, China Syndrome et tout ça. Bon, en tout cas, là, c'est un commentaire sur. Ça s'appelle Fleur de Lys. Fleur de Lys, c'est effectivement. C'est le côté royal français, c'est la pureté. Et effectivement, c'est la grande nation qui, avec cette histoire de Fleur de Lys, est bâtie aussi son espèce de. Dogme national, donc d'une indépendance énergétique grâce à l'énergie nucléaire. Et donc, du coup, qui est proclamé de plus en plus dans le Green Deal en tant que Green Energy. Hein. Et voilà, donc pour moi, c'était ça le lien. Donc, l'ambiguïté.
À un moment, tu disais que les molécules pouvaient être assimilées à des. Réaliser des performances. Donc, quand on accepte sous le terme, on pourrait dire qu'il peut y avoir la performance sans conscience.
Oui. Alors, c'est une très bonne question parce que la notion aussi conscience, intelligence, agentivité, là aussi, on est un peu dans le brouillard. Il y a un livre qui a été publié récemment par Catherine Hales et qui est basé sur la notion de non-conscious cognition. Donc, en fait, la cognition, c'est une chose, mais on n'a pas besoin de la conscience pour que, en fait, les processus cognitifs se passent. Et donc, très souvent, nous, avec justement notre exceptionnalisme et notre spécisme qui nous est propre, on pense que, en fait, la cognition dépend de la conscience. Et il y a déjà eu des théories dans les années 70, notamment en écologie environnementale, Gibson, par exemple. Donc, par exemple, le dauphin, la prise de décision n'est pas faite par le cerveau, ça se fait déjà au niveau de la colonne, et donc il y a une espèce de cognition distribuée.
Et pour l'homme aussi. Hein.
Et
par ailleurs, à l'opposé, il y a par exemple un professeur de Harvard qui s'appelle Max Tegmark, qui est un Suédois, payé par le Breakthrough Institute, qui pense que, donc c'est un physicien, qui pense que la conscience est une propriété de la matière. Voilà. Simplement, elle se concentre plus ou moins selon les niveaux d'organisation.
Ça te fait sourire.
Donc, tu peux trouver cet article Consciousness, the State of Matter, par une star de la science de Harvard.
Mais c'est quoi le concept? La conscience, c'est
de la matière.
Une propriété de la matière.
Consciousness
as a state of matter. L'article est c'est une provocation scientifique
par quelqu'un qui est dans ce star system de la science, il faut être dans le buzz, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il est payé par donc les Breakthrough Institute, c'est des oligarques. Comment il s'appelle ? Un russe qui est arrivé aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui finance le Breakthrough Prize, qui finance un pote de.
Je voulais faire aussi un vrai. Je sais pas si c'est une question plutôt remarque, mais il me semble que toute la réflexion sur l'église stade, c'est quand même de mettre en crise aussi l'être visuel de l'homme, de l'humanité. Parce qu'il y a aussi avec la microphonie, sont des œuvres qui donnent pas au final l'aspect visuel, c'est moins important que tout ce qui se passe.
Parce qu'il y a une lutte contre le visiocentrisme en quelque sorte,
ouais.
Et puis il y a une espèce de pamphlet en faveur de la multimodalité, ce qui recoupe en fait pas mal de réflexions de la biosémiotique par exemple, notamment la biosémiotique scandinave, où sémiotique veut dire d'abord que c'est un interprétant, il n'a pas besoin d'être conscient, il a des capacités cognitives, même bactérie a des capacités cognitives, donc il va interpréter un signal, et donc cette interprétation, et cette interprétation n'est pas forcément visuelle. Voilà.
Ça me rappelle, on a travaillé dans le jardin de la Biennale de Versailles, de paysage. Et en fait, on avait fait une parcelle pour faire un jardin de champignons. Mais aucun champignon s'était présenté au rendez-vous. Le fait que nous, on expliquait aux gens que c'était un jardin de champignons, elle était plus intéressante pour les gens de voir vraiment des champignons. Ils étaient tous vraiment passionnés par l'explication.
Ça veut dire que les champignons sont restés au stade microscopique. Ils n'ont pas formé de tal.
En fait, on se disait.
C'était là, les champignons. Ils étaient là, planqués dans la terre.
Oui, c'était dans la terre, mais il fallait expliquer aux gens, voilà, ça c'est. Ils étaient tous intéressés, mais il y avait beaucoup de choses. Donc au final, voilà, il y avait cette double quelque chose qui marchait, qui agissait dans la terre, mais nous, on n'avait pas au final forcément besoin de les voir.
Je voulais revenir à la question artistique. Moi, je me demande, par rapport à la conscience, justement, ce phénomène, si la conscience n'est pas. Finalement, n'est pas la production de la microperformativité. Quelle sera la définition exacte? Je n'ai pas suivi, était au début, peut-être tu l'avais expliqué, puisque dans ce cas, on peut considérer tout phénomène naturel à l'échelle comme de la microperformance.
Oui.
C'est le cas.
Ben justement, pour vraiment aller au-delà de cette. L'imitation, que ça serait un acte conscient. Et donc, ici, aussi, même.
Le geste artistique serait dans notre regard sur ces phénomènes.
Bah, on a eu ça beaucoup avec les surréalistes déjà, avec les rêves, etc., le subconscient, etc. Et là, la performance qu'on va montrer avec justement la performance du sommeil et comment traduire en temps réel quelque chose qui n'est pas soumis à une action contrôlée, une maîtrise de matériaux conscients par l'artiste, mais qui se déploie. Ou bien cette performance de Yamarosic qui laisse juste ses membres vagabonder pour savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir, pour devenir vert quelque part, vert avec R-R-E. Hein. Donc devenir vert, c'est-à-dire faire un avec le matériau, et du coup épouser le matériau qui l'oppresse, qui l'écrase, et donc d'être dans une immersion pour faire émerger, et c'est ça dans le mot de Bernard Andrieux qui va parler justement de l'immersiologie de la part d'un philosophe du corps justement qui sera exactement sur place le 14. Donc, comment être immergé dans quelque chose, faire émerger en fait des processus qu'on néglige d'habitude.
Comment t'es venu à cet intérêt pour le vert il y a 20 ans, c'est ça que tu dis?
La couleur.
Oui.
Oui, c'était il y a 30 ans.
Comment ça s'est déclenché cette
J'ai montré tout au début un article justement. Donc effectivement pour moi c'était ça. Donc cette contradiction de créer quelque chose qui me paraissait évident, qu'un arbre vert ne serait pas de l'art, et de se dire attends, hein, Boris l'a planté quoi hein. Et donc du coup voilà tout l'art biotechnologique pour moi c'était quelque part le vert, le naturel, l'artifice, etc. Et puis ça est devenu une espèce d'obsession. Donc je passe pas une journée sans que j'ai de nouveaux trophées. Hein. Donc, et c'est vrai qu'il y a plein de gens autour de la planète qui m'envoient des anecdotes par rapport au vert, les espaces verts et enfin, toutes les histoires derrière. C'est un sujet sans fin. Et ce que je trouve que c'est un... On cherche souvent dans les relations transdisciplinaires le vecteur où les gens arrivent à se parler. Et on se dit oui, tout le monde aime les sciences, tout ça, mais c'est pas aussi évident. Et moi, je cherchais longtemps quel est un sujet, un champ où tout le monde, de quelque niveau, enfin académique, non académique soit, ait quelque chose à dire. Et tout le monde a une histoire avec le verre. On ne trouvera pas un être humain sur Terre qui n'aura pas une histoire à raconter ou une idée préconçue. Et donc, du coup, pour moi, c'est une espèce de cheval de Troie qu'on tire sur la place publique des idées, sur la place des marchés des idées. Des marchés pour l'instant encore entouré de tour d'ivoire peuplé par des idiots hyper spécialisés et qu'il faut sortir de la tour. Non,
tu pourrais repréciser cette problématique initiale là, j'ai oublié là, sur cet apourri là, entre le vert et le naturel, c'est ça? Un article de journal,
oui.
J'ai un peu oublié déjà.
Oui, ça, oui, c'était ça, c'était un artiste écologique qui effectivement avait fait des arbres en bois aggloméré qui ressemblaient à des cyprès pour protester contre les effets climatiques. Et donc du coup, et c'était très drôle parce que la question de la toxicité se trouvait déjà, à l'époque j'étais journaliste, et donc on a regardé un petit peu, mais attends, t'as utilisé quoi là comme couleur? Puis on a trouvé pour se faire le max de fric possible dans la subvention qu'il a perçue par la ville. Ben, il a acheté, je sais pas, chez Castorama, la couleur le moins cher et le plus toxique. Et donc, il faisait une œuvre écologique avec le peinture bas de gamme, etc. Et puis voilà, donc c'était déjà. Et le vert était absent. C'est intéressant parce que Mondrian, pourquoi est-ce que le vert est absent? Pourquoi Kandinsky, quand Kandinsky parle en tant que moderniste de la couleur verte, il dit. C'est la couleur de la bourgeoisie, elle est très calmante, c'est comme une vache satisfaite. Hein. Une vache satisfaite assise sur son pâturage. C'est la façon comme Kandinsky traduit en fait la particularité de la couleur verte. Hein. Et puis, la couleur verte est sortie du spectre de couleurs primaires seulement au XVIIIe siècle. C'est par justement le concept... des théories de la couleur, notamment française, justement de mélange de couleurs. Donc on a le blanc et le noir à gauche et à droite, puis il y en a le bleu, le jaune et le rouge, puis c'est l'orange, c'est assez clair, etc. Mais le vert, c'est une espèce d'arc qui va en bas. Donc on voit déjà graphiquement, et donc peu à peu, on a écarté le vert comme couleur principale. Et donc c'est devenu une espèce de quatrième couleur un peu détestée. Et notamment le moderniste, il y a l'école de Düsseldorf, l'école Zéro, par exemple, il est connu que Hücker, qui est avec Otto Pien, un des précurseurs du mouvement Zéro, qui ferme son atelier, en fait, dès qu'il commence à faire de l'art, pour ne pas être inquiété par le verre de l'extérieur. Hein. Voilà, donc il y a une espèce d'aversion de moderniste contre le verre, je trouve que c'est assez intéressant.
Deuxième question que j'avais qui m'intéresse, c'est là, est-ce que tu as aussi investigué sur le champ religieux? Moi, par exemple, l'islam, ils utilisent le vert.
Ouais.
La troisième question, c'est de savoir aussi, là, on est beaucoup dans le XXe siècle, bien avant, est-ce que selon les civilisations, les continents, le vert n'avait pas la même signification? La dernière question, puisque tu investis beaucoup sur un verre, comme bien, est-ce que tu vas faire un copyright sur un verre que tu vas revendre?
Oui. Ok. La question, la réponse à la dernière question est oui. Parce qu'avec l'artiste Julie Navarro, on a eu un peu de subvention de la DRAC Limousin Aquitaine. On a fait un chasse au vert dans la Creuse. Et la Creuse, soi-disant, c'est une région très très verte. Mais pourquoi elle est verte? Parce qu'on a planté pas mal de Douglas dans les années 50. D'abord, c'était des prairies. Donc des prairies qui étaient plutôt roses, qui étaient plutôt pâles, etc. Et c'était des marais avec beaucoup d'autres couleurs, alors que la Creuse est devenue verte, y compris avec justement le barrage des lacs de Vassivière, qui est maintenant le centre d'art et des paysages, très écolo, etc. Mais c'est dans un barrage, hein. Donc c'est tout est artificiel. Donc la forêt la plus verte n'est pas la plus diverse. Hein. Et donc on a fait une chasse au vert pour chasser uniquement des trophées, des objets utilitaires. C'est-à-dire qu'on a chassé le verre non naturel, les poubelles, le mobilier urbain, etc. Et puis de se trouver de chasse, on a fait une espèce de verre moyen qu'on appelle le verre de passade. On est en train de chercher comment est-ce qu'on peut la faire synthétiser. Donc après, sur les questions de signification, islam, etc., bah, là, s'il faut lire bah, le livre de verre de Michel Pastoureau, qui est médiéviste, effectivement, qui connaît super bien l'histoire du développement. Ça a beaucoup à voir aussi avec la technique de mélange. Donc, il y a pigments et teintures, qui sont deux choses déjà très différentes. Et très souvent, Michel Pastoureau met en avant le fait que le fait de mélanger des teintures, ça ne se faisait pas très souvent. C'était aussi de guildes, aussi de communautés commerciales qui étaient séparées. Et donc, il ne fallait pas mélanger. Donc, ça se faisait plus en Allemagne. Donc l'allemand, on brisait le taou, donc il y avait plus de verre en tant que mélange du côté allemand. Puis il y a aussi cette hypothèse comme quoi, une fois que le verre était devenu une couleur d'islam, puisqu'il représentait quand même une certaine végétation, que c'est devenu aussi une couleur qui, avec la croisade, était perçue comme négative dans l'espace chrétien. Mais en fait, ça change à peu près tous les 50 ans. Donc c'est assez intéressant. Donc je conseille sur la question de la symbolique des verres, vraiment le livre super bien documenté de Michel Vassero. C'est pas le seul, il y a aussi des livres comme ça, par Smith, The Key of Green, c'est plus sur la culture anglo-saxonne, et sur le verre en Irlande, le verre aux États-Unis, etc.
Et pourquoi, par exemple, dans la culture ou dans les arts de spectacle, c'est pas ça.
Oui, ça porte mauvaise chance. Il y a cette histoire de Molière, apparemment. Il y a aussi une espèce d'histoire de toxicité. Je ne sais pas si c'est vraiment avéré. On dit aussi que Napoléon, on dit que voilà, il n'est pas mort parce qu'il était intoxiqué, mais parce qu'il y a tellement de verre qu'à Sainte-Hélène, en fait, c'est le gaz toxique qui sortait en fait, de la tapisserie verte. On a trouvé en tout cas de l'arsenic en fait, dans ce jeu.
Il
L'arsenic sur le cerveau, ça, sur le corps,
c'est-à-dire que, en fait, l'arsenic quand c'est fixé, c'est pas un très grand problème. C'est quand c'est mouillé et quand quand il y a une espèce d'état gazeux, voilà, qu'on le respire. Et puis il y avait la mode. Il y a beaucoup de représentations qu'on voit au 19e siècle. De squelettes représentant de femmes allant à des balles, etc., dans un costume vert, et qui seraient présentées par une tête de mort. Quoi. Et comme ça, comme quoi, éviter les vêtements verts. Et donc, au contact de la sueur, de la chaleur, donc l'évaporation, etc. Et donc, on a récemment, donc, avec Adam Brown, présenté notre livre, à la Michigan State University, le livre qui circule, en présence de ce livre, l'original de ce livre, donc par Katzi, Shadows from the Walls of Death. Et en allemand, on dit Giftschrank quand il y a de la littérature. Il y a des livres fragiles, je ne sais pas en français s'il y a ça. Pas vraiment, hein. Comment tu appelles Giftschrank, c'est l'armoire toxique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y toucher. Mais en fait, c'est des livres fragiles.
Ah oui.
Mais c'est marrant parce qu'en allemand, on dit clairement Luftschrank. Et donc, du coup, on l'a fait sortir de la réserve, mais c'est venu en camion. Donc, il fallait le libraire qui venait et s'était présenté sur Plexiglas, puisque de ces livres-là, il ne reste que 3 éditions. Donc, il reste 3 livres existants. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre ne consiste pas en de reproduction de la tapisserie verte toxique, mais par de bouts de tapisserie verte. C'est-à-dire que c'est les originaux du papier peint. Et ça, c'est intéressant. Donc, on a célébré la publication de notre livre en présence du livre de 1870.
Bien, bien. C'est peut-être le moment de passer vraiment en mode informel. Il y a une grosse plâtrée de riz qui a été cuite, j'imagine. Il y a de la sauce à mettre dessus. Est-ce que, je sais pas, les gens qui ont une vue plongeante, là, est-ce qu'on peut squatter en bas ou est-ce qu'on plutôt on décale la table et on reste...
Là, c'est un méga bureau.
D'accord, ben donc du coup, on pourrait décaler la table par là, puis poser les trucs et puis investir l'espace.
Peut-être quand Nicolas et Maria sont là, je sais pas, vous avez participé au dernier Greenness Festival, peut-être comment être votre relation par rapport à cette thématique le growth, green, la décroissance en quelque sorte, parce que vous avez travaillé sur la décroissance et le système voilà.
En tant que retour à chaud du festival, il y avait une installation performative intéressante de Chikala Petrich qui résonne assez littéralement avec cette question dans laquelle en fait, son propre corps émet une ombre sur un champ de cresson en train de pousser. Et il y a cette espèce de dualité du coup entre la croissance du végétal qui entoure et l'ombre portée de l'humain en fait sur ce champ de cresson. Et donc c'est une performance qu'elle développe comme ça sur plusieurs jours et qui du coup rythmait un petit peu le festival sur plusieurs jours en même temps que d'autres activités avaient lieu. Différentes salles. Donc, il y a un lien assez littéral sur cette question. Quoi. Nous, on était là pour présenter un autre projet qui peut-être résonne un peu ces questions-là autrement, dans lequel on mettait en scène, on va dire, une culture complètement hors sol. Donc, c'est un mètre carré de blé qui est cultivé comme une culture de hachiche en placard, par exemple, dans lequel, en fait, tout doit être approvisionné artificiellement. Donc, en gros, symboliquement, c'est comme si on se coupait de l'environnement, comme si on était sur une station de placement. Aussi bien la lumière que le vent, que l'eau, que les nutriments doivent être apportés artificiellement. Donc, c'est une espèce de contre-exemple, et on utilise ce contre-exemple pour donner une idée de ce que fournissent des écosystèmes en bonne santé à tout ce qu'on consomme tous les jours. C'est-à-dire de donner un ordre de grandeur, non pas un chiffre exact, ce qui est sans doute une aberration et que... En fait, on n'essaie de pas jouer le jeu de l'exactitude scientifique, mais d'utiliser les outils de la quantification et de la science pour donner une idée d'un ordre de grandeur de la valeur, on va dire, économique, de ce que fournissent des écosystèmes en bonne santé à quelque chose comme 1 kg de blé, ou 1 mètre carré de blé, dans ce cas-là. Donc ça, habituellement, ça se développe sur 3 mois, la durée d'un cycle de maturité du blé. Et du coup, on arrive à approcher une estimation, quantifier quoi, ce que coûterait ce mètre carré de blé s'il ne bénéficiait pas des écosystèmes. Donc on arrive à quelque chose de l'ordre de 300 euros par kilo de blé, ce qui est à peu près 1000 fois plus élevé que le prix du blé sur le cours des marchés. Donc du coup... ce chiffre, il est forcément un peu aberrant et un peu approximatif. Mais ça donne une idée, en fait, de ce qui sépare notre compréhension économique de tous les jours, de ce que serait la valeur de ces choses qu'on a autour de nous, de la valeur non économique, la valeur intrinsèque de tout ce que nous fournissent les écosystèmes en bonne santé tout le temps. Et qu'on a beaucoup de mal à mesurer et même à nommer dans notre langage de tous les jours, qui est très affecté par la logique purement voilà, économique, monétaire. Et l'idée que ça coûte 5 euros, ça en coûte 1, etc., et qui n'est pas forcément relié à la valeur intrinsèque de ces choses, puis à leur tissu de connexion avec, avec la planète.
Combien ça coûte la lumière du soleil?
Par exemple. Entre autres.
Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, on avait un colloque qu'on a baptisé Oikos, et le grec Oikos, en fait, c'est de là que dérive à la fois la notion d'économie et écologie. Donc le nomos, c'est plus le fait de comptabiliser, de compter, et le logos, c'est de comprendre. Donc on privilégie aussi l'économie sur l'écologie parce qu'on préfère compter que comprendre, en quelque sorte. Donc, quand on revient un peu à l'étymologie de oikos, c'est pas mal, parce que oikos, ça veut dire quoi? C'est maintenir le foyer, en quelque sorte. Donc, qui appartient au foyer? Parce qu'on compte les microbes, et donc le système écosystème, pas le, voilà, les services écosystématiques ne sont pas forcément compris, mais c'est aussi la richesse bactérienne du sol, en quelque sorte, ça pourrait l'être aussi. Donc, du coup, comment valoriser le travail microperformatif, justement, de microbes, de micelles, etc., qui fructifient le sol. Tout ça, c'est lié. Donc là, on a travaillé aussi justement avec des économistes de la Suisse qui travaillent justement aussi sur la compensation de CO2, etc. Et donc, on a proposé là une panel art et sciences et finances pour un prochain colloque qui se tient à Venise au mois de septembre. C'est la série de Media Art Histories, l'histoire de l'art et des médias. Et donc, voilà, on va réfléchir sur cette question économique. Outils de la finance, écologie et.
C'est art et finance, tout court.
Art et finance.
C'est art et finance ou écologie?
Art, finance et écologie.
Et écologie, mais après, c'est pas dans l'écologie. Regardez que tu regardes. Art et finance. Moi, juste, je trouve ça vachement intéressant, là, de ce rapport entre la growth et green, croissance et le vert. Ça m'a toujours marqué. Moi, j'ai un ami éleveur dans le Cantal. Qui me racontait, il a un voisin qui me raconte parfois il se prend qu'il y a un vrai du pays, un éleveur de vaches à lait, et comment il a des crises par moment d'abattre tout ce qui pousse. Parce que c'est une forme d'angoisse qui le prend, et je crois que si on prend conscience du très peu de tout ce qui a été déboisé en Europe, si on prend juste l'Europe, vraiment, effectivement, tu parlais du lac de Vassivière, mais.
C'est le contraire. Hein.
À part les forêts peut-être primaires de Pologne, il n'y a pas un seul centimètre carré en Europe qui est naturel. Peut-être comment on a peut-être oublié comment l'angoisse que nos ancêtres avaient avec la croissance du végétal, que c'était toute une histoire de la clairière, d'ouvrir, de défricher, d'éradiquer cette croissance. C'est un peu le contraire qui a eu.
Il paraît que la connotation positive de la croissance au terme économique vient en fait de mouvements en France qu'on appelle le physiocrate, Turgot, etc.
Dupont de Nemours.
Hein?
Dupont de Nemours.
Bon, peut-être tu peux complémenter. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est relier la production de la valeur uniquement à ce qui pousse. Et donc, c'est effectivement après le mercantilisme, donc en fait, il y a une espèce de valeur ajoutée en fait par main d'œuvre, hein, du luxe. Mais là, en fait, le physiocrate, c'était un peu feudaliste, c'était le contraire, c'était le terrain. Et la croissance en tant que dogme actuel, justement, théorie de l'économie, provient avec sa métaphoricité positive, positiviste encore de ça.
Les physiocrates, en fait, ils étaient inspirés par le confucianisme. Il y avait à cette époque-là, l'Europe était irrigué par les jésuites qui revenaient de Chine et qui avaient des documents en particulier. Il y a un physiocrate, j'ai oublié lequel, mais qui mentionne explicitement l'influence chinoise. En fait.
De Quenet?
Non.
Ok.
Donc l'idée de les confucianistes, ils veulent un équilibre. Les physiocrates, ce n'étaient pas des croissantistes, à ma connaissance. Je ne sais pas, tu peux peut-être... Non, Eric, tu n'es pas un spécialiste de ces questions-là. Ils n'étaient pas industrialistes, par exemple. Ils valorisaient la forêt, l'agriculture. Et pour eux, la vraie richesse, c'était la richesse agricole. C'était avant...
Et agricole.
Agricole.
Mais
ils défrichaient, ils rationalisaient
aussi la culture.
C'était des rationalistes. C'est ça que.
c'est un peu le début de cette pensée de réductionniste, de ramener la nature à des grandeurs numériques et de faire des comptes. Bien, est-ce que c'est maintenant le moment de remplir l'estomac?
On va passer au mode informel, en fait, pour ceux qui ne viennent pas souvent au mardi, en fait. Il y a toujours un moment un petit peu formel de présentation, de discussion, puis un moment un peu plus, on va dire, informel, où on prend un apéro ensemble, on mange quelque chose, etc. Et en fait, les conversations continuent, mais sur un mode un peu plus nucléarisé. Voilà. Mais en tout cas, on va remercier Alex pour sa présentation.